La solitude de la jouissance.
La sexualité. On sait que Freud a dit quelque chose à son propos qui lui a donné de l'importance, qu'il a fait admettre que le petit enfant avait une sexualité, que la sexualité c'est compliqué, etc. Mais on n'a pas pris toute la mesure de ce que Freud, la psychanalyse, ont découvert concernant la sexualité. Alors d'abord, il faut bien se dire que la psychanalyse, ce n'est pas, mais alors, pas du tout, la sexualité partout. La sexualité partout, c'est bien plutôt ce que l'on trouve dans la vision, la conception du monde, qui s'exprime dans des mythes, ou que l'on trouve par exemple dans des sagesses orientales. Là, il y a bien clair, bien net, le principe mâle et le principe femelle, qui sont présents dans tout l'univers, qui l'organisent. Alors ils sont soit en lutte, soit ils coopèrent, ils se combinent de façon diverse, et puis on cherche le meilleur arrangement qui puisse se faire entre le yin et le yang. Bon. Je sais que je suis là un peu rapide, mais voilà ce qu'on appelle le pansexualisme. Le mot grec « pan » veut dire « tout ». Bon. Justement, la psychanalyse n'est pas un pansexualisme. Parce que dans un pansexualisme, le principe mâle et le principe femelle sont distincts et opposés, donc complémentaires. C'est une polarité, comme on parle de pôle positif et de pôle négatif dans l'électromagnétisme, enfin quand il s'agit de, disons très simplement, des aimants. Bon. Ah, ce serait bien, n'est-ce pas, que l'amour entre un homme et une femme ce soit comme ça, qu'il y ait une attirance invincible à se coller l'un contre l'autre et qui serait fondée dans la nature des choses. Par une formule qu'on pourrait écrire avec des plus et des moins. Et on obéirait à cette formule. Bon. Ce serait encore mieux que le procédé des agences matrimoniales modernes qui vous font remplir des fiches pour les mettre dans un ordinateur et alors on vous sélectionne un échantillon de dames-sœurs potentielles. On fait passer là le lien sexuel dans cet instrument contemporain du savoir qu'est l'ordinateur. Il y a, c'est plus joli, un mythe grec antique qui donne une forme à cette rêverie de complémentarité, un mythe qui a été inventé par Platon et qu'il a mis dans la bouche d'Aristophane. C'est très simplement que chaque être humain serait issu d'un œuf initial où il était fondu avec sa moitié, confondu avec elle, et à la naissance, chacun se trouverait séparé de sa moitié qu'il aurait ensuite à chercher de par le monde. C'est une très jolie allégorie du désir. Sauf que le mythe d'Aristophane, s'il dit que vous avez quelque part une moitié, quel est votre complémentaire, ne dit pas que ce complémentaire est forcément d'un autre sexe que le vôtre. Bon. Ça fait une différence. C'est déjà plus compliqué que l'idée du mariage parfait des deux sexes conçus comme symétriques et opposés. L'exemple des aimants n'est pas très probant non plus. Car là, c'est les pôles de même signe qui s'attirent et les pôles de signes opposés qui se repoussent. Et en plus, ce Soit dit en passant, le mot aimant n'a rien à voir avec l'amour. Il vient du grec adamas, qui veut dire corps dur, faire le plus dur. Bon. Alors, ce qui est mis en question parce que Freud a découvert la sexualité, c'est la complémentarité des deux sexes. Cette complémentarité, on ne peut pas la nier, sans doute, quand il s'agit de la reproduction. À ce niveau-là, qui est biologique, il y a, on peut l'admettre, un rapport naturel nécessaire entre les deux sexes. Alors, on a pris ça comme point d'appui, on a énormément élucubré à ce propos. En particulier, on en a fait une loi naturelle, disant que c'était de cette façon-là, et pour cette fin-là, la reproduction, la procréation, que l'être humain avait à se rapporter sexuellement au corps d'un autre humain. Quand on dit « loi naturelle », le mot « loi » est très équivoque. Ce n'est pas la loi au sens des lois de l'électromagnétisme, auxquelles les corps aimantés obéissent nécessairement, car un corps humain peut faire tout autrement avec le corps de l'autre que selon le schéma complémentaire. Et quand on dit loi naturelle, ce n'est pas non plus la loi au sens des lois que vote un Parlement. C'est une loi au sens de ce que voudrait la nature, en tant que la nature serait une création divine. Donc la loi naturelle sexuelle était, si je puis dire, l'interprétation d'une volonté ou d'un souhait de la nature, disons même une interprétation du désir de Dieu qui serait présent dans la nature, appuyée sur ce qu'il est difficile de nier, la complémentarité des deux sexes au niveau biologique. Ben, il faut bien reconnaître que cette interprétation n'est plus aussi probante qu'elle a pu l'être, depuis qu'elle a été perturbée par la science du vivant. Puisque, de ce fait, la reproduction est devenue, si je puis dire, très indépendante par rapport à l'acte sexuel. Et d'ailleurs, dans la reproduction, il n'est plus trop question des personnes, de l'homme et de la femme. Il est question du spermatozoïde et de la gamète. C'est ça qui opère à ce niveau. Alors Freud, eh bien, Freud a fait une découverte un peu comparable. Il a découvert qu'il y avait dans le corps de l'être humain une substance, entre guillemets, une entité, un être. On peut même dire, si on préfère, un fonctionnement bizarre qui était logé dans le corps de l'homme comme dans celui de la femme et qui ne servait pas à la reproduction de l'espèce ni même à établir le rapport sexuel avec un autre corps, mais au contraire, à établir un rapport spécial du corps avec lui-même. Ce rapport du corps avec lui-même, c'est ce qui s'appelle, au moins depuis Lacan, c'est ce qui s'appelle la jouissance. Alors, bien entendu, il y a quelque chose qui s'appelle jouir du corps de l'autre. Mais quel est le lieu de cette jouissance-là? Où cette jouissance est-elle localisée? Elle n'est pas localisée dans le corps de l'autre. Elle est, si je puis dire, dans le corps de l'un. C'est très matérialiste. Je suis d'accord, cette façon de voir les choses. C'est un matérialisme. C'est un matérialisme de la jouissance. Et la jouissance, c'est un état de votre corps à vous, si je puis dire. Et quelle est sa finalité? À quoi sert-elle? Tout ce qu'on sait à son propos, c'est qu'elle est recherchée pour elle-même. Ça veut dire qu'il y a, comprenez bien que j'essaye de simplifier au maximum quelque chose qui est plus compliqué que ça, sans doute. Bon. Mais qu'il y a dans le corps humain quelque chose qui cherche à jouir de soi-même. Si je puis dire, qui cherche à se jouir, en employant un verbe réflexif, comme on dit « se penser » ou « se déplacer ». Vous vous souvenez que le cardinal, devenu pape, pape Benoît XVI, évoquait récemment la dictature du relativisme. Eh bien, là, dans la psychanalyse, au moins, pas de relativisme. La jouissance est un absolu. Elle n'est pas relative parce qu'elle n'est pas pour autre chose qu'elle-même. Elle a sa finalité en elle-même. C'est le règne de la jouissance pour la jouissance. Pour faire comprendre ce que c'est que la jouissance, Lacan donnait l'exemple du chat qui ronronne et dont tout le corps se met à vibrer. Freud, lui, pour faire comprendre que la jouissance n'était pas la satisfaction d'un besoin, ni d'une demande, ni d'un désir, Freud, lui, avait inventé carrément un autre type d'impulsion, de mouvement, de trajet, qui n'était ni besoin, ni demande, ni désir, mais quelque chose qui n'avait jamais reçu de nom jusqu'alors. Il appelait ça la pulsion. Il disait bien lui-même que c'était un mythe. Mais un mythe qui lui servait à penser le paradoxe de la jouissance. Et le paradoxe, c'est qu'il lui faut bien un objet à cette pulsion, mais ce n'est pas ça qui compte. Car l'objet peut être remplacé par un autre. Ce qui compte, c'est que par le moyen de l'objet, quelque chose puisse se jouir. Bon, je crois qu'il faut que je prenne un exemple. Je prends l'exemple de la faim. C'est un état du corps, admettons, qui signale le besoin d'une nourriture, d'un objet, d'une substance qui vous nourrit. Bon. Admettons que là, ce soit clair, ce besoin. Mais la pulsion, ce que Freud appelait la pulsion orale, c'est autre chose. Le bébé veut le sein, on lui donne la tétine. Et c'est aussi bien. Ça fait aussi bien l'affaire. Alors que la tétine ne délivre aucune nourriture. C'est un leurre. Alors qu'est-ce qu'elle satisfait exactement, la tétine? Eh bien, Freud disait, on doit supposer qu'elle satisfait une pulsion. Qu'elle permet le se jouir. L'image qu'il employait à propos de la pulsion orale, c'était celle-ci, c'est de dire « c'est comme une bouche qui s'embrasserait elle-même ». Et l'objet, lui, il est indifférent. Il n'est que le moyen pour que la bouche s'embrasse elle-même. C'est dire que la jouissance n'établit pas un rapport avec l'autre corps. Mais qu'elle affecte votre corps à vous, que la pulsion trouve à se satisfaire dans votre corps. Comme on s'exprime dans la psychanalyse, la pulsion est là auto-érotique. Alors là, au niveau de la pulsion, c'est chacun pour soi. On peut mourir à la place de quelqu'un d'autre, on peut se sacrifier, on peut dispenser personne d'avoir à mourir. Chacun est seul devant la perspective de la mort, qui sera la sienne et celle de personne d'autre. Eh bien, disons que de même, chacun est seul avec sa jouissance. Il y a une solitude de la jouissance qui est voilée par les idéaux, par l'amour, par l'altruisme. Et c'est cette solitude de la jouissance qui se découvre dans le cabinet de l'analyste, quand tombent tous les voiles. Et d'ailleurs, on peut se demander si l'analyste n'est pas là d'abord pour qu'on n'ait pas trop peur quand cette solitude radicale-là se découvre. Alors, qu'est-ce qu'il découvre ? Que l'on est comme enfermé dans sa prison, de fantasmes, de symptômes, de désirs, de souvenirs, de grandes idées, de petits trucs, dans sa prison d'amour et de haine, d'ennui, de gaieté, de souffrance, et que tout ça n'est que pour jouir, pour le se jouir, et que le se jouir au fond, c'est pour rien. C'est une vérité, si l'on veut, et elle porte un nom. C'est une vérité cynique. Et l'analyste lui-même, qui n'est le messager d'aucun idéal, qui, dans sa pratique, doit se garder d'éprouver de l'amour et même de la compassion, il doit se tenir au niveau de cette vérité cynique qui est celle qui correspond à l'absolu de se jouir. Alors néanmoins, me dira-t-on, il y a le lien, il y a le couple, il y a la société. Eh bien justement, il y a tout ça, et c'est très difficile à comprendre comment ça réussit à s'introduire dans cette affaire de jouissance. Alors pour le dire très vite, tout de même, la jouissance a besoin d'instruments. Elle a besoin de moyens de jouir, comme par exemple la bouche a besoin de la tétine. Et au fond, le vrai complémentaire, il est là. Il est dans cet objet, comme la tétine, dans ce bouche-trou, dans ce bouchon. Et c'est pourquoi on l'a découvert d'abord dans la psychanalyse sous le nom de l'objet perdu. Pas votre moitié, comme chez Aristophane, mais ce bouchon qui est comme le plus précieux de vous que vous auriez perdu. Eh bien, c'est par là que l'individu est connecté avec la civilisation, qui lui fournit de quoi jouir, et en effet, entraîné dans le mouvement de la civilisation, ça se renouvelle, comme les symptômes, eux aussi, se renouvellent.